À midi 25, cette semaine, dans Midi-Pile, on va aborder, bien sûr, les élections américaines. Ça fait des semaines que je vous dis que je trouve qu'on couvre peut-être un petit peu trop au Québec pour l'impact réel qu'on peut avoir dans l'issue de cette élection-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voter.
Ah, bien, en fait, mais... Simon, on n'a pas d'impact sur l'élection. On aura des impacts de l'élection. C'est-à-dire que, oui, ouais. Nous autres, on est touchés un peu par qui est au sommet des États-Unis, mais on n'a aucun pouvoir, techniquement parlant, sur le résultat des 24 prochaines heures à venir. Mais c'est nos voisins, c'est gros. Donald Trump est polarisant. Madame Harris, c'est une dame. Elle est afro-américaine. Elle est plus jeune. Ce sont deux personnages différents. Alors qu'on avait un Biden contre Trump qui était un peu la bataille de la gériatrie, là, on a au moins deux personnages différents, ce qui mène quand même quelque chose d'excitant. Ça polarise beaucoup. Les extrêmes polarisent. Du côté de Trump, on flirte souvent avec l'extrémiste de droite. Du côté de Mme Harris, ben, on est un peu plus socialiste, on est un peu plus à gauche. Donc, tu comprends qu'il y a des chocs d'idées. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça que tout le monde puisse amener son idée puis que ça ne fasse pas de flamèches, mais ça en fait des flamèches. Je t'avais parlé la semaine passée du rassemblement, le genre de rally dans le coin de New York, en plein cœur de New York, où les républicains avaient passé un genre de parade, puis là, t'avais les démocrates affiliés, puis là, ça se tirait de la boîte, puis ça s'arrachait le drapeau de sa tête. Ça n'est quasiment primitif de part et d'autre, mais à la fin de la journée, dans le meilleur des mondes, c'est dans l'urne que ça se passe, et ça se doit d'être un événement purement démocratique. C'est ce qui se passe dans l'urne qui compte. En théorie.
Et c'est long, une campagne électorale américaine. Ça commence des mois à l'avance. Même dans ce cas-ci, on peut parler d'une bonne année facile. Quoique Trump, n'ayant jamais accepté le résultat de l'ancienne, il est quasiment en campagne depuis 4 ans.
Ah oui, puis ça avait été... On en regarde encore des stigmates. Maintenant, il avait dit, man, lâche le morceau. Puis le triste événement de l'insurrection, la tentative d'insurrection du Capitole. Là,
le parcours judiciaire après coup. Et là, ben, distinguer le vrai du faux, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on en fait une chronique techno avec Steve Fortin de MinuteTech.info ce midi. Salut, Steve.
Bonjour, messieurs.
On entend beaucoup parler des fake news de la part de Donald Trump, mais ironiquement, il se passe également de la désinformation de par son camp via Elon Musk, entre autres, et ses médias sociaux. Et ça a été l'objet de ta chronique d'aujourd'hui.
Ben, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au phénomène. En fait, depuis 2016, là, lorsque Trump a été élu, j'avais fait d'ailleurs une chronique peu de temps après pour démontrer que les réseaux sociaux avaient eu un impact majeur dans le vote des Américains et dans le non-vote des démocrates par rapport à Hillary Clinton. Cette année, ben, si on prend le cas de Donald Trump, n'importe quel humain autre que Donald Trump sur la Terre aurait pas pu être candidat à la présidence d'un pays, de la plus grande démocratie au monde, en ayant le pedigree qu'il y a au niveau légal. Ce gars-là, c'est un criminel. Il y a des procès en attente, il y a des preuves accablantes pour le 6 janvier. Pourquoi ce gars-là, il y a encore dans les sondages une chance d'être président de la plus grande démocratie du monde? Ben, c'est là-dessus que je me suis penché, puis on se rend vite compte que les réseaux sociaux, encore une fois, sont responsables un peu de ce qui se passe au niveau polarisation, parce que la polarisation, ça crée de l'engagement auprès des deux camps. Les camps Trump et les camps non-Trump, ils vont être très engagés sur les réseaux sociaux. Puis ça, c'est payant pour les entreprises comme Facebook, comme Twitter X et tous les autres réseaux sociaux. Ça crée de l'engagement. Puis l'engagement, ben, ça fait publicité. Puis les publicités, c'est ça là, qui est payant pour les réseaux sociaux. Donc, sont grandement responsables de ce qui se passe actuellement. Puis le rachat de Twitter par Elon Musk il y a 2 ans, puis le soutien de Musk par rapport à Trump, ça crée un environnement vraiment X, qui est un environnement très toxique au niveau désinformation. C'est pratiquement seulement de la désinformation maintenant.
On en parlait la semaine passée avec Sophie Villeneuve pour son analyse politique. Les règles électorales de financement sont tout à fait différentes aux États-Unis de ce qui se passe ici au Canada puis au Québec, de sorte qu'il y a beaucoup d'argent d'impliquer là-dedans aussi via des sociétés qui sont apparentées, par exemple, à Elon Musk.
Oui, justement, Elon Musk, il y a un PAC qui appelle, c'est un organisme sans but lucratif qui ramasse des sous et qui est capable d'investir pour des publicités et des trucs de même au niveau électoral. Puis son PAC, lui, fait tirer $1 million par jour pour signer une pétition bidon pour promouvoir vraiment Trump, le vote républicain, le candidat Trump. Puis ça, c'est une manœuvre qui est un peu qui va être probablement jugée après les élections parce que c'est pas tout à fait légal tout ça.
Ben c'est comme si c'est quasiment la loterie Trump ou c'est la loterie républicaine. Là. Du moment que tu aides à. En fait, j'essaie, parce que je lisais ton texte tantôt, puis effectivement, ce que tu disais, c'est que ça risque d'être challengé juridiquement parlant. En gros, du côté de Musk, il donne c'est comme un max million, si on veut, là. C'est un max million par jour pour tous ceux qui remplissent la pétition puis la font circuler. C'est un peu ça.
Oui, exactement. C'est une pétition pour encourager les gens à voter pour Trump et d'aller voter. C'est sûr que ceux qui ont gagné, ils ont peut-être pas voté, mais il y a bien. C'est pas mal sûr qu'ils ont dû voter, mais ça, c'est encore une manœuvre un peu trompeuse de la part des républicains. Mais moi, je me dis, si t'as un bon programme, t'as un bon candidat, me semble, en tant que Canadien, me semble que si t'as des idées puis qu'il y a quelque chose qui passe, t'as pas besoin d'envoyer juste de la fausse nouvelle puis du mensonge puis de faire un bingo pour faire gagner le candidat. Mais le Trump, c'est seulement du mensonge. Puis lorsqu'on regarde tous les... On regarde par exemple sur X tous les mensonges qu'il y a là-dessus, la désinformation, c'est assez incroyable. Puis peu importe le scandale, on dit que Trump, c'est un candidat de Teflon parce qu'il y a des scandales qui l'affligent à tous les jours pratiquement et accepter de l'argent de l'Égypte. Il y a tout le temps quelque chose de croche par rapport à Trump qui sort à tous les jours, mais ça lui glisse comme sur le dos d'un canard. Puis je me rends compte que ma petite hypothèse qui est non scientifique, j'ai pas de tableau là-dessus, mais je me dis que le camp Trump est en mesure de noyer la vérité dans une mer de mensonges. Donc, la vérité circulera sur les réseaux sociaux, n'aura pas un impact majeur parce qu'elle va être noyée dans toute la désinformation au niveau volume que le camp Trump est capable de générer, puis les influenceurs et tout par rapport à sur les réseaux sociaux comme X qui sont vraiment où la droite est vraiment promue par rapport à aux partisans de Kamala Harris, à part aux démocrates. Donc, cette hypothèse-là de noyer la vérité dans une mer de mensonges, ben, ça réussit bien à Trump parce qu'il y a bien des gens aux États-Unis puis au Canada qui sont pas en mesure de comprendre tous les crimes qu'il a fait. Ils se disent, ouais, les médias s'acharnent sur lui. Ben non, les médias s'acharnent pas sur lui parce que les médias, ils vont avec les faits. Si la personne a commis un crime, mais le fait, c'est que tu as commis un crime. Donc, c'est pas de l'acharnement.
Mais à l'inverse du Canada, où sur les médias sociaux, il n'y a plus la possibilité de relayer des informations vérifiées de médias traditionnels, aux États-Unis, ils ont encore accès à ça. Donc, explique-moi comment ça se fait que les médias traditionnels ne réussissent pas à prendre le dessus sur les fausses informations qui circulent?
Bien, il y a un travail aussi par rapport aux médias traditionnels. Les médias traditionnels ont tendance, mettons, dans une campagne électorale traditionnelle avant l'ère Trump, il avait tendance à faire du balancement au niveau de l'information. Une information avec tant de mots dans un journal pour un candidat, puis avec le même nombre de mots pour l'autre candidat. Avec Trump, les médias ont tendance à nettoyer un peu ce qu'il dit, puis pas nécessairement vérifier les faits, ils nettoient un peu ce qu'il dit. Ils disent que Trump a dit ça de la candidate démocrate, mais sans dire sans répéter les mots qui sont parfois atroces de Trump, mais là, ça fait pas longtemps que les médias américains sont réveillés et sont en mesure de dire exactement ce que Trump a raconté. Mais depuis un an, ben, ils ont tendance à assainir le discours de Trump. Puis ça fait en sorte que le contenu des médias traditionnels a perdu vraiment de la visibilité sur les réseaux sociaux. Puis il y a aussi le camp Trump qui discrédite les médias en les traitant de fake news, en les traitant d'ennemis du peuple. Donc, ces médias-là n'ont pas nécessairement de portée sur les réseaux sociaux. Ils vont être noyés par la mer de désinformation.
Mais à l'inverse, Steve, quand tu regardes, mettons que tu es démocrate, puis tu regardes ce que le camp Trump fait, puis tu vois qu'ils peuvent faire pratiquement n'importe quoi, est-ce qu'ils sont pas tentés de faire la même chose aussi? Est-ce qu'ils en font aussi de la désinformation via les médias sociaux pour essayer de contrebalancer?
Ouais, mais c'est pas le balancier est loin d'être. Mais c'est sûr qu'en élection, en période électorale, il y a toujours un peu de désinformation où on met du crémage sur le gâteau, comme on dit, on en met un peu, mais le camp démocrate par rapport au camp républicain, c'est incroyable là. Ils ont quand même affirmé que les Haïtiens de Springfield en Ohio mangeaient des chiens et des chats, puis le candidat à la vice-présidence américaine au niveau républicain, J.D. Vance, a dit ben moi je vais partir sur cette rumeur là, tu sais, j'avais pas de fait, puis je vais partir, puis moi, ouais, puis c'est que ça fait. Hey, c'est ici ça marcherait pas, tu pars ça, ta carrière est finie là, tu peux pas raconter n'importe quoi, mais eux ils racontent des n'importe quoi pour faire vraiment. C'est vraiment une campagne sur la frustration des gens. Ils sont capables d'aller chercher ce qui est méchant à l'intérieur des gens, les frustrations qu'ils ont, puis de les faire sortir, mais c'est pas une campagne qui est axée sur la vérité.
Est-ce que tu soupçonnes que quand on aura quelques jours d'accumulés post-électoral, c'est-à-dire après-demain, qu'on voit ressortir des scandales qui, pour l'instant, en matière de désinformation, n'étaient pas encore révélés, exemple de l'ingérence étrangère au niveau de la manipulation d'algorithmes ou de fake news extérieures?
Ben ça, on en a déjà des preuves depuis mai dernier. On le sait que la Russie puis l'Iran, la Chine s'ingère au niveau électoral. Même la Russie a payé des influenceurs américains pour qu'ils publient n'importe quoi par rapport à publient des fausses nouvelles. Mais oui, il y en a de l'ingérence. Mais la machine de Trump puis les algorithmes des réseaux sociaux sont tellement rendus puissants que les chambres d'écho sont tellement rendues opaques que les partisans de Trump vont publier n'importe quoi, ce que le gourou va leur dire, ils vont le publier. Puis ils ont même plus besoin d'avoir des usines à bottes comme c'était le cas en 2007 pour publier de la désinformation. Dès qu'une rumeur qui sort, mais elle se diffuse via les réseaux de partisans de Donald Trump. C'est sûr que les algorithmes aussi vont aider parce que rapport à X, par exemple, là, il va favoriser le contenu qui est vraiment pro-Trump par rapport au contenu démocrate, même si c'est faux. Sur X, il n'y a plus de modérateur maintenant. Il y a ce qu'on appelle les notes de la communauté. Puis ça, c'est pas efficace du tout. Vous dites que Elon Musk, c'est probablement le plus grand désinformateur de la plateforme. Puis souvent, on essaie de faire une note de la communauté. C'est sûr qu'elle sera pas validée. On le sait qu'elle sera pas validée, mais c'est comme ça. Mais c'est difficile. C'est aux électeurs. Moi, je pense sincèrement que le camp démocrate va remporter l'élection, mais que on n'aura pas fini avec Trump parce que là, les républicains sont prêts à tenter de renverser le résultat de l'élection. Ça, c'est sûr et certain.
Et justement, on va terminer là-dessus. Tu disais qu'il y a des signes qui laissent croire qu'ils sont déjà en train de préparer l'éventualité où il y aura une défaite de Trump sur les médias sociaux.
Ben exactement. Depuis peut-être 3 semaines, on voit que le discours des républicains est changé. Si on regarde ce qu'Elon Musk publie également, c'est par rapport à des fraudes électorales. Il y a de la fraude électorale dans les États pivots, il y a de la fraude électorale un peu partout, il y a de la fraude. Donc, leur discours a changé parce que eux, à l'interne, ils doivent voir que les sondages sont pas nécessairement si favorables que ça. À ce moment-là, ils préparent le terrain pour vraiment là, dire qu'il y a de la fraude. Puis aussi, au niveau judiciaire, ça fait des mois que les républicains intentent des poursuites à des comtés, à des organismes d'élection de comtés, d'États, pour essayer d'avoir des missions pour contester l'élection. Là. Donc, ils sont prêts pour faire un 6 janvier 2.0, puis ils vont être beaucoup mieux préparés. Donc, demain, oui, l'élection va avoir un enjeu, puis un impact majeur. Mais si Trump perd cette élection, attendez-vous à ce qu'il y ait du gravuge. Qui est vraiment là, encore une fois, il va nier que l'élection, qu'il a perdu l'élection encore une fois.
Merci beaucoup, Steve.
Merci.
Ça me fait plaisir.
Salut,
à la semaine prochaine. Steve Fortin de MinuteTech.info pour lire le texte complet et avoir Les commentaires par texto ou SMS, ça fascine, ça passionne. Donc, je vous invite à lire le texte au complet. Et entre autres, il y a un commentaire qui ressort du lot qu'on vient de recevoir il y a quelques instants. Il y a toujours bien 70 millions de monde qui vont voter pour Trump. C'est pas toutes des caves. Effectivement, j'ai écouté beaucoup de reportages là-dessus de gens qui semblent bien articulés, qui ont une bonne vie, mais qui vont clairement, à visage découvert, avouer qu'ils vont voter Trump. Parce que c'est un vote de contestation à l'endroit de l'establishment aussi.
La première élection de Donald Trump était, excuse-moi, mais un... je vais utiliser un terme poli, était un majeur bien tendu à l'endroit de l'establishment américain prétendant. Et c'est arrivé un peu comme un coup de pied dans canis. Donald Trump est arrivé avec un coup de pied dans canis pour brasser un peu les affaires, ça a donné un bon show. Bon, maintenant, il a fait du très mauvais, il a fait du pas si pire. Si on compare l'ère Biden après, l'ère Biden, là, c'était pas chic non plus. Les États-Unis, les quatre dernières années, sont pas belles. Ils sont pas belles du tout. Alors, il y a des Américains qui disent, attends un peu, là, vous avez démonisé Trump, mais les quatre années de Biden n'étaient pas nécessairement très mieux. Fait que tant qu'à ça, je peux revoter pour l'autre pareil. Et on verra, effectivement. Ça va être vraiment intéressant. Il y a du vote, effectivement. C'est impossible que 70 à millions d'Américains soient des épées à temps plein. Il y a du vote de contestation.
Crise de confiance envers les médias
crise
aussi.
Crise de confiance. Il y a des gens qui ont remarqué que finalement, d'un côté ou de l'autre, c'est pas mieux nécessairement sur les accomplissements.
Et un auditeur nous disait justement, il y a quelques minutes, première vraie élection dans le contexte de crise de confiance à l'endroit des médias, probablement depuis la pandémie. Donc, le résultat qu'on va avoir là, c'est du monde qui s'informe ici et là. Puis on va se le dire, parfois, c'est un peu n'importe comment. Je donne pas nécessairement la note de 100% aux médias traditionnels. C'est pas ça mon point. Mais c'est que quand tu décides de dire « tout ce qui est médias traditionnels, je le tasse » et j'y vais de ma propre analyse de tout ce qui se dit ici et là... Ça peut être l'équivalent de s'informer sur Spotted, là.
Oui, puis je vais reprendre encore ce que je t'ai dit tantôt parce que moi, ça m'a jeté sur le derrière en disant, je me campe dans quelle position en tant qu'observateur là-dedans? Puis le rallye à New York des Républicains, ça faisait très old school, très vieille époque avec les petits drapeaux, puis on roule. Puis tu sais, il y avait une certaine forme de provocation. Puis tu dis, bon, ben, s'il y a une forme... Puis de l'autre côté... T'avais toute la gang de l'extrême gauche. C'était d'un gaminisme épouvantable de part et d'autre. Et là, c'est de voir de quelle manière on peut relever le niveau des États-Unis. Parce que le débalancement est tombé des deux extrêmes. C'est pas chic, là. C'est vraiment pas beau. Je pense encore qu'il y a un camp qui se présente mieux que l'autre. Je pense que c'est assez évident. Mais maintenant, sur le terrain, les années de pouvoir de un et les années de pouvoir de l'autre nous ont pas démontré nécessairement des clivages si importants dans l'accomplissement de un par rapport au non à l'accomplissement.
Honnêtement, je l'ai souvent dit, moi, Trump, la première fois, je me suis fait faire un petit peu de popcorn dans le micro-ondes, puis quand il a été élu la première fois, je me suis dit, j'ai hâte de voir comment il va brasser en cage.
Puis ça, je trouvais ça
drôle.
Il y a
un leadership fort, Make America Great Again, puis bon, ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais force est d'admettre que plus ça allait, surtout après la défaite électorale de 2020, il virait craque-pote, là.
Hey, ça manquait
c'est pas mon pays. Je regarde ça encore avec du popcorn, puis j'ai hâte de voir demain soir, mais...
Ça manque de classe.
Il virait craque-pote.
Ça manque de classe, ça manque
c'est
de
pas,
dignité.
C'est pas que c'est nécessairement 100% d'idiots qui votent pour lui, mais c'est pas supposé d'être 50-50, là, dans les sondages. Tu comprends ce que je veux dire, là?
Donc, il faut comprendre
pourquoi
le message.
Pourquoi c'est 50-50?
C'est ça, exactement. Avant de démoniser un camp ou d'embraser ou d'embrasser un camp, posez-vous la question. La vraie photo ou la vraie question, c'est... Pourquoi les États-Unis sont presque divisés à 50-50 aujourd'hui? Et maintenant, on fait quoi après?
Midi 44.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Midi Pile au 95.7 Kick.
Après le hockey du Canadien, place à vos commentaires. Ici Mario Langlois. On se donne rendez-vous tout